Vous écoutez
RMC. RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Nous y voilà, 7h08 sur RMC, la suite de votre week-end des experts, après le jardin et avant de retrouver tout à l'heure Christian Ekia pour la forme et la santé entre 8h et 9h et Raphaël Grabli entre 9 et 10. Eh bien c'est la maison, c'est avec Christian Pessé qui est là. Bonjour Christian.
Eh bien bonjour François.
Alors Christian,
oui.
Tout à l'heure on évoquera les résultats incroyables des magasins de bricolage depuis ce déconfinement.
Ça explose.
Et avec le confinement, parce que les magasins de bricolage sont toujours ouverts.
Hein. Voilà, c'est la raison pour laquelle ça explose, c'est qu'on est de plus en plus chez soi.
Et bien sûr.
On fait des travaux d'aménagement aussi pour le télétravail. Et en plus, ces grandes surfaces de bricolage sont ouvertes.
Sont ouvertes et on a du temps. Donc, enfin, un peu plus de temps, on va dire. On évoquera le chauffage électrique.
Oui.
Est-ce qu'il est encore d'actualité? Ce sera notre gros dossier de ce samedi.
C'est le dossier central. Nous aurons Émeric Gaudron, qui est directeur marketing chez Thermor, donc du groupe Atlantique.
Voilà, et puis pour rester dans le chauffage alors que les températures baissent,
oui.
À peine 4 degrés du côté de chez Patrick Mulan ce matin, tout à l'heure.
Et oui, c'est pas chaud.
On évoquera le chauffage solaire. Alors je ne sais pas si chez Patrick Mulan le chauffage solaire en cette période de l'année pourrait marcher. Quoique,
ah oui, hein, bien sûr. Enfin, premier rayon de soleil et ça marche.
Hein. Exactement, donc n'hésitez pas, hein, que vous, si vous avez envie de poser des questions concernant le chauffage électrique ou même le chauffage solaire, dès maintenant, c'est le bon moment. Le 32-16, Amina vous attend au standard pour récupérer vos questions. Et puis, vous avez aussi Direct Studio, bien sûr, avec votre question que vous laissez sur votre smartphone et votre numéro de téléphone. Bienvenue dans ce week-end des experts et on attaque avec Gilbert qui est là.
Oui, bonjour.
Bonjour Gilbert.
Bonjour Gilbert.
Oui. Bonjour François. Bonjour Christian.
Bonjour Gilbert.
Voilà ma question. En fait, je dois changer ma vieille chaudière à mazout,
oui,
qui date de 74.
Ah oui, il est temps.
Oui, il est temps de le faire. Alors, oui, j'aimerais connaître, pour le biofuel,
oui,
qu'est-ce qu'il en est pour le biofuel? Aussi, peut-être j'aurai le choix dans ce sens-là. Aussi, peut-être une pompe à chaleur.
Mm-hmm.
Mais je me pose une question entre la pompe à chaleur, les voitures électriques. Je me demande dans quelques temps qui c'est qui va produire l'électricité pour les pompes à chaleur et pour les voitures électriques.
Alors ça c'est...
Ah oulala,
là il va falloir...
Là, Gilbert, c'est quand même des questions profondes.
Voilà. Là, Gilbert, c'est des questions presque philosophiques. Là.
Alors d'abord le biofuel. Alors qu'est-ce que c'est? Vous savez qu'on a annoncé a priori la fin des chaudières fuel. On a dit 22, 23, bon on sait pas très bien. Mais
2022 ou 2023, c'est
voilà,
ça, hein,
c'est
vous
ça
dites.
Donc la problématique, elle est qu'évidemment le fuel, c'est une énergie non renouvelable, hein, puisque c'est fossile. Alors comme pour l'automobile, vous avez le 10, c'est ça?
Oui, hein, oui. L'éthanol, voilà, le bioéthanol.
Donc eh bien les producteurs de fuel, enfin les distributeurs de fuel, en tout cas, se creusent la tête pour essayer d'aller dans le même sens.
Et bien sûr.
Alors il y en a déjà.
Et de rajouter un petit label bio.
Voilà. Alors il y en a déjà qui ajoutent entre 5 et 9% d'un dérivé du colza. Donc c'est un premier pas vers ce qu'on appelle le F10, de la même manière que pour l'essence, mais c'est encore très insuffisant. Donc l'objectif à quelques années, l'objectif c'est du F30, c'est-à-dire qu'il y aurait jusqu'à 30% de produits renouvelables, à savoir une dérivée, je l'ai dit, de l'huile de colza. Pour l'instant, les chaudières que nous avons ne sont pas aptes à utiliser, à brûler du F30. Ça demande une adaptation qui n'est pas phénoménale, puisque au niveau du brûleur. Donc, il y a encore un avenir, en tout état de cause, pour peut-être, parce que maintenant, il va falloir ensuite que les pouvoirs publics avalisent, c'est très compliqué, mais il y a un avenir encore pour le fuel. De toute façon, sachez que vos chaudières, celles que vous avez déjà chez vous l'installer, on va pas interdire que vous les utilisiez, et elles continueront à être réparables. Donc, vous savez, dans une chaudière, il y a un peu d'électronique pour les plus perfectionnés, mais une chaudière fuel, c'est assez basique. Donc, on peut imaginer que de toute façon, vous pourrez utiliser encore donc vos chaudières pendant longtemps, surtout si une adaptation permet d'aller vers le F30. Alors ensuite, donc ça veut dire qu'il y a encore un avenir pour le fuel. C'est pas ça va pas être l'interdiction généralisée du chauffage au fuel. Après, vous posez une autre question qui est celle de l'électricité pour une pompe à chaleur. Alors, ça consomme très peu d'électricité, une pompe à chaleur. Et comme je le dis souvent, comme vous m'avez entendu le répéter, c'est un mode de production d'énergie extraordinaire, puisque lorsque vous consommez 1 kW, vous en restituez 4 à même 6 aujourd'hui. Hein. Ah oui. Ça va jusqu'à... Alors, la question pertinente que vous évoquez, aussi bien pour les voitures, c'est est-ce qu'on va pouvoir produire suffisamment d'électricité une fois que tout le monde serait à l'électrique ? Ça vaut aussi pour le chauffage, d'ailleurs, électrique purement. Je peux vous dire, moi, je ne suis pas compétent pour vous répondre. Simplement, la question, ce n'est pas tellement la production. La question que je me pose, moi, c'est plus la capacité des réseaux de distribution. Mais là, j'imagine que... Des Enedis et autres se penchent évidemment sur la question. Donc voilà, moi je pense que faut pas non plus dire on va dans le mur partout, parce que sinon on n'en sortira pas. Mais c'est pareil, si vous faites du chauffage au bois, est-ce qu'il y aura à terme si tout le monde se mettait à faire du chauffage au bois, est-ce que nos forêts suffiraient à fournir? Je peux pas vous répondre, mais encore une fois, donc je résume un peu. Oui, il y a encore de l'avenir pour le fioul a priori, et des recherches pour avoir du biofuel, du vrai biofuel. Pour moi, le vrai biofuel, c'est quand il y aura du F30, effectivement, du 30% de colza dedans. Et puis après,
la pompe à chaleur. Quand ça, le F30?
On espère 2023, quoi, en gros. C'est-à-dire dans 2-3 ans, quoi, maximum. Hein.
D'accord, très bien. Merci en tout cas pour votre appel. Et si, tout comme cet auditeur, vous voulez joindre Christian PC pour toutes vos questions maison, profitez-en. Je vous rappelle que tout à l'heure, on va parler de chauffage électrique. Là, dans un instant, chauffage solaire. Si vous avez des questions sur ce sujet, dès maintenant, 32-16. Il est temps de retrouver le conseil de Christian.
RMC, votre maison.
Le conseil béton de Christian PC.
Et on va parler donc de ce fameux chauffage solaire. Vous allez nous expliquer comment ça marche et surtout, est-ce que c'est possible partout ?
Voilà, alors, on connaît évidemment le solaire photovoltaïque. On en parle beaucoup ces dernières années. Ça permet de produire de l'électricité gratuitement. Mais on connaît moins le solaire thermique qui permet de chauffer alors l'eau sanitaire et aussi le liquide qui circule dans votre système de chauffage central, c'est-à-dire de l'eau essentiellement, donc eau chaude sanitaire et chauffage. Alors, il y a eu quand même pas mal de déconvenues sur les chauffe-eau solaires il y a quelques années et c'est sans doute... peut-être l'origine de, je dirais, pas du désamour, mais enfin du peu d'intérêt pour le chauffage véritablement solaire. Alors, c'est évidemment extrêmement intéressant. Dans les cas les plus favorables, c'est la possibilité de se chauffer quasi gratuitement et toute la maison, si elle n'est pas trop grande, si elle est parfaitement isolée, si elle est bien orientée, si elle est dans une région à ensoleillement optimal, et si le climat est clément. Alors, vous allez me dire, ça fait quand même pas mal de points. Alors, comment ça fonctionne? Quelle est la configuration? On a des panneaux solaires thermiques, en gros des panneaux dans lesquels circule un liquide. On a un ballon tampon, donc qui va aussi constituer une réserve d'eau chaude. On a des circulateurs, comme dans un chauffage central normal, des tuyaux évidemment, et puis on a des émetteurs de chaleur tels que des radiateurs, et puis aussi le plancher chauffant qui constitue certainement l'une des meilleures façons de se chauffer aujourd'hui. Alors on fait quoi? On y ajoute aussi des chauffages d'appoint. On va mettre, mettons, un poêle à bois, des radiateurs électriques, on va en parler tout à l'heure. Alors dans les cas où le système de chauffage solaire ne suffit pas, et c'est la majeure partie des cas, on utilisera le solaire avec l'appoint cette fois d'une chaudière. Alors, chaudière qui peut être à bois, granulé, ou d'une PAC, donc une pompe à chaleur. Le solaire fournira le chauffage quand le soleil est au rendez-vous, quand il fait pas trop froid. Et la chaudière viendra en relève ensuite, et notamment la nuit, évidemment. C'est un peu la même complémentarité que j'ai déjà évoquée dans l'hybridation du chauffage, avec, par exemple, la pompe à chaleur et le gaz. C'est le même principe, hein. Dans les deux cas, les panneaux peuvent aussi fournir l'eau chaude sanitaire. Mmh. Alors, dans quel cas ça fonctionne correctement? Eh bien, ça fonctionne correctement. D'abord, si on a une boucle d'eau chaude, ce qu'on appelle, les pros appellent une boucle d'eau chaude, c'est-à-dire si on a déjà un chauffage central, si on a un plancher chauffant ou si on compte en installer un. Ensuite, il faut que la toiture, évidemment, soit bien exposée au sud, si possible, inclinée à 45 degrés. Mais notez que vous pouvez aussi, si vous avez un grand jardin, si vous avez un champ, par exemple, vous pouvez aussi mettre des panneaux directement dans ce champ sur des structures donc métalliques, en corner, etc. En toiture, il faut compter une dizaine de mètres carrés de panneaux solaires minimum, de préférence alors auto-vidangeable, c'est un petit côté technique, mais évidemment, il ne faut pas non plus ni que ça surchauffe, ni que ça gèle. Donc, il faut que ça puisse auto-vidanger dans certaines conditions.
Et ça se fait automatiquement, là ?
Oui, ça se fait automatiquement.
D'accord.
Ouais, ça se fait automatiquement. Et alors, le coût, généralement, vous me demandez ça, François. Le coût,
bien
s'il
sûr.
Vous plaît. Bon, le coût, pour une maison de 100 à 120 mètres carrés, alors, ça coûte quand même assez cher. Il faut compter 15 000 euros. Donc, c'est quand même pas rien. Alors, il y a des aides.
Il nous faut trois générations pour amorcer.
Non, parce qu'il y a des aides. aujourd'hui, il y a MaPrimeRénov', il y a les primes économie d'énergie, vous savez, les fameux C2E. Alors, si je m'en réfère au barème assez complexe, je ne vous cacherai pas, assez complexe, qui a été édité sur le sujet, en cumulant les aides, et si on n'est pas fortuné, on peut avoir jusqu'à 12 000 euros d'aide. Alors, c'est quand même très aidé. Après, ça vous laisserait plus que 3 000 euros à payer. J'irai pas avoir un système qui ensuite vous donnera du chauffage à certains moments complètement gratuitement. C'est pas quand même la mer à boire. À noter qu'il existe aujourd'hui aussi.
Il faut bien sûr, rappelons-le, comme vous l'avez dit, des revenus très faibles. Pour bénéficier de ces 12 000 euros.
Bon, vous savez, je me promène maintenant avec ça.
Votre bible de la rénovation.
C'est ma bible, j'ai 14 pages ou 16 pages, je sais. Non, je dis des bêtises, qu'est-ce que je raconte? J'ai 31 pages, 33 pages.
33.
J'ai 33 pages du barème, les nouveaux barèmes de MaPrimeRénov'. C'est vous dire que c'est pas complètement simple.
Faut monter un peu votre micro, parce qu'il est un peu bas, là.
J'ai tapé mieux. Sur le micro.
Mais c'est sûr.
En vous montrant, François, MaPrimeRénov'. Il existe aussi des panneaux aujourd'hui hybrides qui font à la fois du photovoltaïque et qui font aussi du thermique. C'est pas nouveau parce que ça existe, mais depuis pas mal de temps. Mais c'est vraiment quand même le solaire est en train de reprendre du poil de la bête, si j'ose dire, après avoir pris un gros coup de massue il y a quelque temps, parce que le solaire était tellement intéressant que ça avait fait un effet d'aubaine. C'est comme ça que vous voyez dans la campagne aujourd'hui des fermes entières avec des dizaines et des dizaines de mètres carrés. Donc il y avait eu un effet d'aubaine de
vivement qu'on puisse être autonome en énergie avec le solaire. On n'est pas loin.
Oui,
hein.
Mais
on n'est pas loin. Alors ça coûte cher encore parce qu'il faut stocker l'énergie. Mais
on est dans la complémentarité. Vous voyez, quand je dis, par exemple, là, des panneaux solaires à la fois thermiques et à la fois donc photovoltaïques, par exemple, le photovoltaïque peut servir à alimenter une pompe à chaleur. Par rapport à la question qu'on a eue de notre auditeur tout à l'heure.
C'est sûr.
À ce moment-là, le problème de réseau ne se pose pas, puisqu'on on devient complètement autonome entre le solaire, le photovoltaïque, le thermique, et puis la pompe à chaleur, dont on connaît les vertus que je développe souvent.
Très bien. C'est passionnant, hein, ce sujet du solaire.
On y reviendra.
Bien sûr. Christian, il est 7h21. On va revenir dans un instant. Juste après la météo de Jérémy Souliman, on s'intéressera à un autre chauffage. Alors, peut-être moins innovant, quoique, parce que ça innove aussi dans le domaine du chauffage électrique.
Il y a des choses intéressantes.
Et on en parlera avec notre invité, Aymeric Gaudron, qui est directeur marketing client chez Thermor. Hein, voilà, évidemment. On connaît ce constructeur. On revient dans un instant. Si vous avez des questions sur le chauffage, n'hésitez pas dès maintenant, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On est là dans une minute. À tout de suite.
RMC.
Ça va chauffer.
Qu'est-ce qui se passe ? Un problème de chauffage ?
Tu vérifies les radiateurs.
Jusqu'à 8h.
Moi, quand t'auras 5 minutes, tu pourrais venir installer un radiateur dans mon lit. Hein ? Comme ça m'évitera d'avoir froid à moi aussi, tellement je suis seule.
Votre maison.
Et qu'est-ce que vous avez, vous, comme chauffage ?
Des radiateurs.
Ouais, d'accord, mais des radiateurs
dans chaque pièce.
François Sorel.
Oui, des radiateurs, c'est des radiateurs si vous voulez, qui sont en haut au mur.
Et vous rentrez allumer le chauffage dans nos chambres. J'aimerais prendre une tasse de thé en train.
Oui, madame.
Merci.
Christian Pessé.
Je ne sais pas si Annie appelle ses gens pour qu'ils puissent avoir le chauffage, mettre le chauffage avant.
Oui, bien
arrive.
Sûr. Et puis comme on a un chauffage électrique avec Gégène, c'est une nouvelle marque, c'est-à-dire que, eh bien, le matin, ça nous met en forme.
On fait
tourner le pédalier et donc ça produit l'énergie nécessaire. C'est une des solutions que nous avons retenu.
Bon, on va parler de chauffage électrique.
On va être sérieux quand même.
À 17h30 sur RMC. Voilà. Le chauffage électrique, quelles sont les innovations dans ce domaine? Et puis, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans des radiateurs? Une chose, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, vos questions sur le chauffage électrique, dès maintenant, profitez-en. On a un quart d'heure, un gros quart d'heure sur ce sujet. Donc, 3216, l'appli RMC Direct Studio.
Voilà, on va faire un point général et ensuite on va venir sur les innovations, sur l'avenir de ce type de chauffage, parce que c'est un chauffage qui, par certains côtés, est très décrié, parce que dans les années 60, on a mis des grille-pains partout. C'était le moment où l'électricité était pas gratuite, mais extrêmement bon marché suite à l'implantation des centrales nucléaires. Et évidemment, quand on parle chauffage électrique, on pense souvent à ce type de chauffage. On va voir que ça a énormément évolué. On a avec nous en ligne aujourd'hui Aymeric Gaudron, qui est directeur marketing, client et communication chez Thermor dans le groupe Atlantique.
Bonjour Aymeric.
Bonjour Christian, bonjour François.
Bonjour.
Alors vous n'avez pas pu venir en studio aujourd'hui pour des raisons bien légitimes qui tiennent au confinement, mais donc vous allez rester avec nous pendant toute cette partie de l'émission. Je voudrais qu'on fasse tout de suite un point rapide sur les solutions. Justement, j'ai évoqué le convecteur. Alors, quelle différence entre un convecteur et un radiateur? Le convecteur, on les connaît, mais ça existe encore? Vous en produisez encore des convecteurs chez Thermor?
Plus beaucoup. C'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, le convecteur, c'est un appareil qui a plus de 50 ans. Hein, donc, en termes de qualité de chauffage, c'est quand même pas quelque chose d'exceptionnel, avec des variations de température. C'est ce qu'on appelle souvent le grille-pain, parce que c'est une caisse métallique avec une résistance. Enfin, c'est assez basique pour le système de chauffage.
D'accord. Donc, on est passé depuis longtemps au radiateur, qu'on dit radiateur à inertie, avec deux grandes familles, je crois.
Oui, tout à fait. En fait, le radiateur à inertie, lui, la grande différence, c'est qu'il a un matériau de chauffe. Ça peut être de la fonte, par exemple, une technologie en fonte, ou un fluide caloporteur. Et l'intérêt de ces technologies, c'est que ça permet en effet d'emmagasiner la chaleur et de la restituer de manière plus diffuse, avec une chaleur douce bien plus
agréable. Voilà, que vous appelez douce. Alors bon, je suis toujours un peu sceptique sur la douceur de la chaleur. On va dire que c'est... Bon, si on prend par exemple les radiateurs à liquide caloporteur, moi je dis souvent que c'est à peu près l'effet d'un radiateur de chauffage central.
Totalement, c'est totalement ça. Et quand on dit chaleur douce, parce qu'en effet, c'est une chaleur moins agressive que ce qu'on a pu connaître avec le convecteur, qui était une chaleur très sèche.
Et puis, il y a une partie aussi de rayonnement qui joue dans ce type de matériel, qui n'existait pas du tout avec les convecteurs. Alors, ça me fait penser, les panneaux rayonnants qui ont été très à la mode il y a 10 ans ou il y a 15 ans, c'est pareil, ça a tendance, me semble-t-il, à régresser, non?
Oui, alors oui, c'est même 15-20 ans, les rayonnants. Oui. Donc on les reconnaissait, des appareils avec des façades à trous. Mais là aussi, la chaleur était pas agréable, était quasiment trop forte, en fait, trop diffuse. Donc oui, aujourd'hui, c'est clairement les radiateurs à inertie, radiateurs chaleur douce que l'on propose.
Oui, et le rayonnement, je rappelle un petit peu, parce qu'on fait pas forcément l'analogie. Le rayonnement, c'est quand vous sortez du téléphérique dans une station d'altitude où il fait plein soleil, vous avez chaud au soleil, vous passez à l'ombre, il fait froid, et en fait, c'est parce qu'il fait moins 10, quoi.
Exactement. Et donc,
Et le panneau rayonnant, si vous mettez un meuble devant ou si vous mettez ne serait-ce que deux chaises devant, ça arrête le rayonnement.
Exactement.
Enfin, ça l'arrête. Ça,
disons, ça le coupe. Voilà, la chaleur est moins bien diffusée, moins homogène.
Voilà, tout à fait. Évolution des thermostats. J'ai fait une chronique il y a 15 jours sur l'utilisation des thermostats. Avant, il y avait avec les convecteurs justement un thermostat simplement sur l'appareil. Disons qu'un thermostat, ça coupe l'appareil à partir d'une certaine température. Là, on a beaucoup évolué, non?
Oui, alors thermostat, en fait, il y a deux thermostats. Il y a ce qu'on appelle le capteur thermique, qui est en effet sur le radiateur, qui aujourd'hui est très précis à 0,5 degrés près.
Ah oui.
Et puis, on peut également avoir un thermostat d'ambiance que l'on va mettre à un endroit dans la maison, dans le logement,
d'accord,
qui va permettre de réguler la température pour l'ensemble du logement.
Ouais. Et la commande, alors elle se fait comment entre le thermostat qui est mettons sur le mur du salon et les radiateurs eux-mêmes?
Eh ben, en fait, vous allez sur chaque radiateur équipé d'un capteur. Sur chaque radiateur, vous allez préciser les températures on va dire, de confort que vous souhaitez.
Oui.
Et également des températures plus économiques. On met souvent à 3-4 degrés en dessous de la température de confort. Et ensuite, le thermostat va réguler, par exemple, d'accord, le jour ou la nuit, ces différentes températures.
Et en fonction des heures de la journée,
exactement.
Si on n'est pas, par exemple, chez soi, c'est pas la peine de faire chauffer à tout berzingue, si j'ose dire. C'est...
Chez soi ou la nuit, les grandes économies sont à faire la nuit, de programmer pour qu'en effet, la
d'accord,
nuit,
on abaisse la température. Et alors, de 3-4 lien... Le lien, il se fait entre le thermostat et qui donne les ordres, soit par radio, soit par courant porteur, soit par fil pilote.
Exactement, il y a trois solutions, c'est les trois que vous avez citées.
D'accord. Et donc, ça veut dire que il y a aussi maintenant de la connexion avec la box, hein.
Alors voilà, alors là, on passe en effet à autre chose. Maintenant, c'est le radiateur connecté. C'est-à-dire qu'avec votre smartphone, vous pouvez piloter chaque pièce de la maison.
Ouais.
Vous pouvez donc à la température au demi degré près. Vous pouvez également suivre votre consommation, ça c'est révolutionnaire, c'est-à-dire que avec des plages de périodes, voilà, sur le mois de novembre, combien a consommé mon radiateur dans la chambre de mon adolescent, par exemple, est-ce qu'il a surchauffé
bien
ou
sûr
pas. Et donc tout ça c'est à distance, et on va même jusqu'à du pilotage à la voix aujourd'hui avec des assistants vocaux.
Ah oui, donc d'accord, ça marche avec Alexa, avec Google, etc.
Voilà, mais mon séjour à 20 degrés, et Alexa s'occupe de tout, Google s'occupe de tout, et pilote le radiateur à distance.
Et ça marche bien, c'est facile à configurer, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le problème de tous ces systèmes-là, il ne faut pas s'appeler Bill Gates.
Non, franchement, c'est très simple, il y a une appli qui s'appelle Cozy Touch qui se télécharge gratuitement, et ensuite vous êtes accompagné avec différentes étapes pour piloter tout ça. C'est franchement une solution très simple, je vous invite à découvrir des tutos qui permettent de voir qu'en quelques secondes, quelques minutes, on paramètre tout ça.
Et ça, c'est génial, le fait de piloter son chauffage à la voix en disant, ben voilà, Alexa, fais en sorte qu'il fasse 20 degrés dans mon salon, c'est vraiment cool.
C'est génial, oui, c'est vraiment génial.
Nous avons, tiens, une petite question qui vient d'arriver sur Direct Studio. Messieurs, c'est Gilbert. Je dois changer mon radiateur électrique dans le séjour d'un appartement situé en montagne, à 1130 mètres d'altitude. J'ai entendu dire que l'altitude pouvait perturber le fonctionnement des radiateurs électriques. Qu'en est-il et quelle solution me conseillez-vous?
Alors, c'est tout à fait vrai. En effet, quand on monte en altitude, la densité de l'air diminue. Donc, en fait, les flux d'air chaud s'effectuent moins bien. Et donc, en effet, le risque, c'est qu'en effet, la chaleur circule moins bien dans le radiateur et que le radiateur s'échauffe et du coup, il se bloque, en fait, il se met en mode sécurité. Il n'y a pas un risque fort, mais il se bloque, en fait. Donc, ce qu'il faut éviter, déjà, c'est plutôt des radiateurs verticaux parce que ce qu'on appelle la colonne de chaleur va être plus haute. Donc, privilégier un radiateur horizontal.
Ah oui, c'est-à-dire pas de sèche-serviette, par exemple.
Alors, sèche-serviette, pas de rayonnant vertical, pas de radiateur chaleur douce vertical. C'est chaleur que vous pouvez, parce qu'il n'y a pas de colonne de chaleur.
Oui.
Et par contre, horizontal, et moi je proposerais plutôt un radiateur dans lequel il n'y a pas justement trop de colonne de chaleur, donc un par exemple fluide caloporteur, c'est très bien.
Très bien. Oui, vous savez bien que c'est mon préféré, ça. Hein. Alors, cette semaine, il a été évoqué par la ministre Barbara Pompili l'annonce de l'éventualité de coupure de courant cet hiver du fait de la surconsommation lors des pics de froid. Alors, ça m'amène aussi à une question de modernisation de l'installation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement faire en sorte que on n'arrive pas à ces pics de chaleur, ces pics de consommation au moment des pics de froid? Qu'est-ce que vous conseillez par rapport au chauffage électrique justement, qui est l'un des responsables de ces pics de consommation?
Alors, responsable, oui, non, parce que 50% de l'énergie électrique est utilisée beaucoup par l'industrie et le tertiaire.
Bien sûr.
C'est vrai que le résidentiel pèse, en effet, dans ces pics, parce que c'est souvent vers 19-20 heures quand tous les foyers
voilà, mettent en route. Ou vers 9h-10h, quoi, ou 8h30.
Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, éviter tous les appareils mobiles, les radiateurs mobiles sur roulettes, les petits soufflants, parce que le problème, c'est souvent ça, c'est qu'il fait froid, on n'est pas bien chauffé, on vient remettre des appareils supplémentaires qui ne sont pas dimensionnés, donc ça, nos fournisseurs d'énergie ne le prévoient pas et paf, on se prend en effet un surcoût, quoi, une surconsommation d'énergie. Après, il y a des solutions comme le délestage qui sont des solutions intéressantes.
Oui.
Un exemple, votre ballon d'eau chaude, il chauffe l'eau la nuit et donc il ne chauffe pas en effet à ces heures-là. Donc c'est intéressant de délester. Il y a un ballon d'eau chaude, on peut le délester une demi-heure, une heure. C'est pas ça qui va le perturber.
Alors le délestage, ça veut dire c'est un petit appareil qu'on met au niveau du tableau électrique, et qui coupe un certain nombre d'appareils non essentiels pendant un certain temps.
Exactement. Et ça va tourner sur plusieurs appareils, donc on peut couper le chauffe-eau une demi-heure, une heure, ensuite un autre appareil, et en évitant en effet que ça vienne gêner l'utilisateur.
D'accord. Alors, ça veut dire qu'il faut aussi moderniser quand même l'installation. Est-ce qu'on peut moderniser? Si j'ai par exemple des vieux grille-pains, est-ce que je peux directement mettre à la place de mes grille-pains, est-ce que je peux mettre directement par exemple des radiateurs à inertie?
Oui, tout à fait. Alors, je vais dire, vous avez un radiateur à le changer, bon, vous pouvez le faire tout seul. Par contre, quand vous faites une installation complète, moi, je conseille quand même de passer par un professionnel, parce que imaginez qu'avant vous aviez un 1000 watts, bah, peut-être qu'un 750 aujourd'hui peut suffire parce que la maison a été isolée. Vérifier le câble électrique.
Et à l'inverse, on ne va pas y mettre un 3000 watts parce que si ça se trouve, le circuit et le coupe-circuit ne vont pas tenir.
Exactement, tout à fait. Donc, bien sûr que c'est possible. C'est assez simple de rénovation, de rénover une solution de chauffage électrique, parce qu'en effet, votre installateur va vérifier les réseaux et on vient remettre en lieu et place des appareils bien plus performants qui aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, sont équipés de capteurs et permettent de réduire la consommation d'énergie.
Alors, Aymeric, nous avons Yannick au 3216 qui a une question. Bonjour Yannick.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans les Alpes-Maritimes, Yannick.
Tout à fait, tout à fait.
Et on vous écoute.
Eh bien, j'aurais voulu savoir ce que Christian pensait des chauffages à infrarouge.
Ah, alors ce que je pense des chauffages infrarouges, mais on va demander aussi à Aymeric Gaudron, qui est un spécialiste des matériels, c'est qu'on est...
Ça chauffe plus qu'une télécommande, quand même.
Oui. Ah oui. C'est-à-dire que là, on est typiquement, uniquement dans le rayonnement. Donc, oui. Ça veut dire que si on est en face, ça chauffe. Si on est derrière, ça chauffe plus et ça chauffe pas la pièce.
Ça alors, chauffe pas l'atmosphère, quand
alors,
même.
Alors justement, Aymeric Gaudron, quelle est la part de convection, s'il y en a, dans un système infrarouge? Est-ce que vous en produisez? Alors, on a vu qu'il y avait souvent des petits appareils, de salle de bain, par exemple.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans quelle pièce, en fait, ça peut être posé? C'est, aujourd'hui, franchement, on pose pas beaucoup d'infrarouges. On voit ça plutôt, en effet, dans des bâtiments compliqués à chauffer. Hein. C'est l'élément rouge. On voit ça sur des terrasses, par exemple, aujourd'hui. Franchement, c'est pas ce qu'on fait de mieux en termes de qualité de chauffage, de confort. Je ne sais pas où votre auditeur veut positionner ce produit, mais c'est moi, je ne suis pas très favorable au chauffage infrarouge.
Vous voulez le mettre où, Yannick?
Ah ben, c'est parce que je suis déjà équipé, puisque je suis dans les Alpes-Maritimes. Et de fait, notre maison est équipée en chauffage infrarouge dans la cuisine, salle de bain, séjour, salle à manger. Ouais.
Moi, je trouve que c'est pas très agréable parce que on est un petit peu comme dans un barbecue, quoi, finalement. Hein. On se reçoit une chaleur. Je sais pas ce que comment vous le ressentez.
Je trouve que la chaleur est très douce. C'est beaucoup plus agréable qu'un autre type de chauffage. Alors on a couplé mixte, hein, c'est-à-dire c'est une cheminée à bois plus le chauffage infrarouge. Mais ça donne une chaleur qui est très agréable.
Bon, bah écoutez, si vous en ressortez au niveau de la consommation, parce que c'est là où il faut regarder les choses.
Oui, tout à fait. Ben, en termes de dépenses, la dépense n'est pas plus importante. Je dirais même elle peut être un peu moindre avec le thermostat de pouvoir réguler tranquillement la chaleur.
Okay. Mais ce sont des barres infrarouges que vous avez ou ce sont des panneaux?
Non, c'est au plafond, c'est des panneaux posés au plafond.
Ah, oui. c'est assez original. Aymeric Gaudron, vous faites ça chez Thermor et chez Atlantique?
Non, on ne propose pas. Alors, on propose des solutions, nous, de plafond chauffant, mais plutôt pour le tertiaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un toit sur des plafonds. Mais non, sinon, on n'a pas ça pour le résidentiel, non.
Alors, attendez, aussi une petite question. J'ai vu quand même, parce que je vais aller voir votre site, vous avez quand même des choses, ça s'appelle, c'est par exemple des radiateurs qui peuvent faire de la musique, qui peuvent diffuser des parfums.
Aymeric, des radiateurs qui peuvent faire de la musique.
Qui peuvent recharger le smartphone. Très franchement, c'est pas du gadget, tout ça?
Bah écoutez, Christian, est-ce que vous pensez que ce matin, on n'a pas des auditeurs qui écoutent RMC dans la salle de bain?
Ah, bah ça, c'est une bonne chose. On ne savait pas qu'il y en avait qui écoutaient, par le radiateur électrique.
Et voilà, ils peuvent écouter, du coup, plutôt que d'avoir un poste de radio dans un coin de la salle de bain, on a en effet des solutions aujourd'hui qui proposent, en effet, d'écouter de la musique. On a des solutions Bluetooth, des solutions multi-room, c'est-à-dire que dans chaque pièce de la maison, vous pouvez rajouter une option qui est une enceinte avec un partenaire Cabas, donc une enceinte vraiment de
qualité. Oui, alors c'est Cabas, hein, moi, ce sont mes enceintes préférées, j'en ai à la maison, c'est plus une marque française, je veux dire ancestrale, mais très ancienne, c'est le top. Hein.
Tout à fait, et franchement c'est une qualité son incroyable, et on arrive à avoir des solutions incroyables. Nous on est convaincus que chez Thermor, le radiateur peut faire autre chose que chauffer, diffuser des parfums à l'intérieur, recharger le smartphone. Moi je suis toujours en train de chercher une prise pour brancher mon smartphone, la prise elle est où? Sur le radiateur. Donc on est convaincu que voilà, ce radiateur peut apporter autre chose dans l'habitat.
Mais est-ce que je peux poser le smartphone sur le radiateur alors qu'il chauffe?
Alors vous avez une tablette qui vient s'aimanter sur le côté, vous mettez votre smartphone sur la tablette, pas sur le radiateur.
Oui, alors attendez, moi j'ai pas mal de questions qui arrivent sur Direct Studio, monsieur. On a Didier par exemple qui nous dit: que pensez-vous des ventilateurs chauffants type Dyson?
Alors, pour moi, c'est ce qu'on appelle de la convection, c'est-à-dire c'est de l'air chaud soufflé. Oui. Et comme le disait Christian tout à l'heure, c'est pas du rayonnement. Donc, oui, c'est une solution, mais...
C'est un peu une solution ponctuelle, c'est peut-être d'appoint.
Oui,
ouais, d'appoint, mais ça, on va pas se chauffer avec ce type de ventilateur, non, c'est parfaitement clair.
Autre question. J'ai 8 radiateurs grille-pain dans la maison. Si je les change pour des plus récents et moins énergivores, ça va me coûter très cher. Est-ce que je peux bénéficier d'aide?
Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup d'aides, hein. C'est-à-dire que, on a parlé de la prime rénov' tout à l'heure. Il y en a fait les certificats, les primes certificats d'économie d'énergie.
Les C2E, hein.
Voilà. Donc, tout foyer, à partir du moment où vous faites poser le radiateur par un professionnel, bénéficie de 60 euros par radiateur. Avec EDF, on a un partenariat. Oui. Et pour les foyers plus modestes, jusqu'à 130 euros par radiateur.
Ah oui, ça peut
Deuxième chose, en passant par un professionnel, vous avez une TVA réduite à 10%. Oui.
Ah, c'est la 10%, c'est pas la 5,5.
Sur le radiateur, non, c'est 10%.
Mais sur la main-d'œuvre, ça doit être 5,5.
Non,
10%. Non, ah bon.
Non, 10%.
Bon.
Et puis ensuite, vous avez des prêts à taux zéro qui permettent aussi de remplacer tout ça. Donc il y a beaucoup d'aides. Comme le disait Christian, c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Mais ça vaut le coup, en effet, de regarder pour générer des économies par la suite.
Voilà. Parfait, ben merci beaucoup Émeric.
Merci Émeric Gaudron, je rappelle, vous êtes directeur marketing client et communication chez Thermor dans le groupe Atlantique.
Merci à vous.
Merci
bonne
journée. Beaucoup. 8h moins le quart. On revient dans un instant. On va changer de sujet et retrouver vos questions. Ce sera le cas, par exemple, de Riyad, qui est en train de construire une maison à Argenteuil par un constructeur individuel et ça coince parce que le confinement est arrivé, le retard, enfin, le scénario cauchemardesque habituel. On en parle dans un instant. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Le retour de votre week-end des experts, c'est la maison. Christian Pessé. Avant de retrouver la météo, les infos de 8h, et Christian Inca qui sera là pour notre rendez-vous forme santé entre 8h et 9h. Christian, on repart avec les questions et on accueille Riyad qui est là.
Bonjour Christian, bonjour François.
Bonjour Riyad, Riyad d'Épinay-sur-Seine.
C'est bien ça.
Vous êtes agent de sécurité?
Je suis chef d'équipe en sécurité incendie, oui.
Très bien, merci de nous appeler. Vous travaillez là, cette heure-ci?
Non, là je ne travaille pas, non.
D'accord. Bon. Et on écoute votre question. Christian écoute votre question, allez-y.
Donc, j'ai fait construire une maison sur Argenteuil, comme vous disiez tout à l'heure. C'est un contrat de CCMI, enfin c'est un CCMI.
D'accord.
Et
constructeur de maisons individuelles, hein, je me permets de traduire.
C'est bien ça. Voilà, c'est bien ça.
Ouais.
Donc j'ai eu sur mon contrat une durée de 16 mois de construction.
Donc, alors moi je dis toujours, hein, il faut pas accepter les contrats avec une durée 16 mois. Il faut demander au contrat la date de fin du chantier.
Oui, exactement, je l'ai, hein, la date. Hein, c'est le 28. Normalement, la date de la fin de chantier, c'était le 28 septembre dernier.
Oui.
Voilà, donc moi, j'ai été livré, là. Ils m'ont livré ma maison mardi dernier, donc mardi 17.
Oui, voilà, bonne nouvelle.
Oui. C'est une bonne nouvelle sans être une bonne nouvelle, parce que j'ai bien souffert durant cette durée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous pouvez constater, du 28 septembre au mardi dernier, ça fait quoi? Ça fait le 17 novembre.
Oui.
Donc ça fait un temps de retard où sur mon contrat est stipulé justement que j'avais normalement des pénalités de retard qui étaient dues à l'entreprise, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, elles sont dues quand même à la période banalisée du 12 mars au 24 juin où de toute façon l'État a neutralisé cette période. Donc ça veut dire que pendant cette durée-là, vous ne pouvez pas en rendre responsable l'entreprise.
D'accord. Le problème c'est quoi? C'est que les travaux ne sont pas arrêtés. Ils ne sont pas arrêtés, les travaux ont continué à fonctionner.
Vous n'allez pas vous en plaindre?
Non, je m'en plains pas, Mais si vous préférez, quand je suis arrivé, mais j'ai eu d'autres problèmes là-dessus. Hein. Ça veut dire juste avant aussi, j'avais des problèmes de livraison, le chantier n'avançait pas.
Vous avez une date de livraison. Qu'il y ait eu du retard dans l'arrivée d'une chaudière ou autre, vous ne pouvez pas entrer dans cela. La seule chose que vous pouvez voir, c'est que de toute façon, alors je vais vous dire, il y a déjà toute cette période qui est banalisée. Donc la date de livraison, elle est reculée du temps que je vous ai décrit, c'est-à-dire du 12 mars au 24 juin. Donc déjà, votre date, elle est reculée de tout cela. Et ensuite, pour
pouvoir... Plus de trois mois et demi quasi. Hein.
Voilà.
D'accord.
Donc et ensuite, vous êtes dans une situation où les tribunaux, lorsqu'on va jusqu'aux tribunaux, en général, donnent un mois de plus aux constructeurs pour qu'on entre dans les pénalités. Donc j'ai pas à noter vos dates, mais je pense qu'à la limite, il vous a presque livré, si je comprends bien, avant ce qu'il pourrait être contraint de faire.
Mmh. Combien de retard en tout, Riyad ?
Bah, du 28 septembre au 17 novembre, combien ça fait ? Ça fait un mois et demi presque.
Oui, bah donc, voilà. Donc, ça correspond à au temps que de toute façon, l'État a donné en plus aux entreprises. Alors, vous me dites, elles ont travaillé.
Oui, ça veut dire que le Covid a bon dos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Dès qu'il y a un problème.
Oui, mais attendez, là.
Concernant le Covid.
On a vécu.
Après, il y a des gens qui sont là.
Non, mais.
Riyad, on a vécu
une situation quand même exceptionnelle. Hein. On peut comprendre corps de métier aient été impactés. Hein.
Et puis, non, je comprends tout à fait. Le seul truc, c'est quoi ? C'est que si le chantier était à l'arrêt complètement, il n'y a pas de problème. Mais si le chantier continue, enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
Mais attendez,
ça a avancé, il n'y a pas eu de problème.
Mais attendez, vous n'allez pas reprocher à une entreprise d'avoir travaillé alors qu'elle aurait très bien pu rester l'arme au pied. Donc, vous devriez la remercier, cette entreprise, d'avoir travaillé pendant une période où, justement, c'était difficile et où elle aurait très bien pu, compte tenu des dispositions légales qui ont été prises, elle aurait très bien pu rester chez elle. Donc, d'ailleurs, d'après ce qu'il me semble, si je fais tout le calcul comme ça à l'arrache, si j'ose dire, il me semble que vous avez une maison, finalement, qui a été livrée plus tôt qu'elle n'aurait pu l'être.
C'est-à-dire qu'en fait, elle aurait pu avoir encore deux mois de retard.
Voilà.
J'ai compris.
Ouais. Ben oui, je comprends hein, votre mécontentement, mais là, dans la période actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont mécontents du fait de cette situation.
Bien sûr, bien sûr.
Ce que je vous souhaite, c'est qu'elle soit bien livrée, qu'elle soit en bonne forme.
Qu'elle n'ait pas de vie, etc.
Et puis, vous savez, deux mois de retard
sur une vie.
Le reste de votre vie, vous allez peut-être habiter dans cette maison, c'est quand même pas catastrophique.
7h53, merci Riyad en tout cas pour votre appel. Christian, on termine avec votre coup de cœur. Et ce coup de cœur, il est dédié au magasin de bricolage.
Oui, excellent résultat pour les magasins de bricolage. C'est ce qu'a annoncé cette fin de semaine la Fédération des magasins de bricolage par la voix de son président, qui est Mathieu Pivin, que je salue. Alors les résultats positifs, évidemment, mais très mitigés jusqu'en janvier, c'était effondré pendant le confinement, avec un mois de mars à moins 50%, un mois d'avril à moins 60%. Les magasins étaient fermés, ne travaillaient qu'en drive ou comme on dit en cliquer, emporter. Ça allait très mal quand même. Alors le rebond s'est clairement manifesté dès le mois de mai en octobre, il était de plus de 24%, presque un quart donc de progression. Alors on peut imaginer que la tendance va s'amplifier avec le reconfinement, s'est amplifié avec le reconfinement en novembre où les magasins de bricolage restent ouverts et pendant lesquels les Français qui seront contraints plus ou moins de rester largement à la maison, vont s'être tournés plus massivement vers les travaux d'aménagement et d'amélioration de leur intérieur et donc de leur confort. Alors les travaux qui visent à équiper leur logement en vue de télétravail ont aussi certainement un impact. Donc on peut imaginer qu'en ce moment ça marche très bien. Alors attendez, il faut quand même tempérer la chose. C'est que la chute avait été telle que aujourd'hui on n'est pas encore au rattrapage total, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé au positif de façon significative, puisque à date, on peut considérer que la progression n'est que de 2,3%. Donc, on va attendre les résultats maintenant, effectivement, du mois de novembre et du mois de décembre. Il reste un trimestre pour confirmer votre engouement. Alors, je ne peux que vous conseiller d'une chose, bricoler, travailler, faites travailler les entreprises et allez donc dans les grandes surfaces de bricolage qui rappellent
rappelons-le, propose aussi des solutions pour vous envoyer des artisans faire poser, installer les matériaux,
les matériaux
que
hein.
vous aurez pu acheter.
Christian PC, on se retrouve samedi prochain, 7h-8h sur RMC. Merci beaucoup Christian.
Je vous en prie.
Et dans un instant, c'est la forme et la santé avec Christian Eka qui est là. On va parler de sommeil.
Le sommeil, d'agriculture. Les hangars sont pleins de produits agricoles et il y a des placards qui sont vides. Mmh. Nous avons aujourd'hui sur le plan social des personnes qui souffrent économiquement, donc il faut les aider. Donc aider les agriculteurs et aidons aussi la population à mieux manger.
Allez, on se retrouve dans un instant après la météo et les infos. À tout de suite.